souvenir de ce que tu as accompli, afin que nous soyons sauvés, que nous soyons délivrés. Nous ne voulons pas, Seigneur de gloire, fouler aux pieds la grâce que tu nous accordes de pouvoir te connaître, de pouvoir vivre pour toi, de pouvoir marcher avec toi. Aujourd'hui encore, Seigneur de gloire, nous voulons être attentifs. Accorde-nous d'avoir des oreilles de disciples, Seigneur, afin de ne pas être comptés parmi ceux qui oublient, Seigneur de gloire. Mais nous voulons être comptés parmi les disciples qui retiennent l'enseignement et qui mettent ta parole en pratique. Seigneur, tu vois au-dedans de nous, aujourd'hui, tout ce qui peut former un obstacle, Seigneur. Les soucis quotidiens, Seigneur de gloire. La mauvaise journée peut-être passée aujourd'hui. Les mauvaises nouvelles entendues, Seigneur de gloire. Les persécutions, la maladie. Seigneur, que rien de cela ne nous empêche de te saisir aujourd'hui. Que rien de cela ne nous empêche de te comprendre aujourd'hui. Dans le nom de Jésus, Seigneur, merci de prendre le contrôle de nos vies, de prendre le contrôle de nos pensées, afin que nous soyons, Seigneur, perméables à ta parole. Sans toi, nous ne sommes rien, Seigneur. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Mais nous venons devant toi avec assurance, avec certitude, Seigneur de gloire, que tu es présent, que tu veux nous parler, Seigneur de gloire, afin de nous enseigner, afin de nous consoler, Seigneur, afin de nous transformer. Que ta volonté, Seigneur de gloire, s'accomplisse maintenant à la perfection, comme ta volonté est parfaite dans le ciel. Que tout ce qui n'est pas de toi soit lié au nom de Jésus-Christ. Que tout esprit soit amené captif à l'obéissance de ta parole. Nous chassons, Seigneur de gloire, toute forme de distraction, Seigneur, dans le nom de Jésus. Gloire et louange te soient rendues à toi seul dans tous les siècles des siècles. Amen. Amen. Nous pouvons prendre place. Nous prenons la parole de Dieu dans l'évangile de Jean, chapitre 13. Évangile de Jean, chapitre 13. Au verset 1er, la Bible nous dit: avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Voilà un acte, une fois de plus, d'amour que le Seigneur va accomplir sans retenue. Donc la Bible nous explique que le Seigneur savait que le temps était proche d'accomplir l'œuvre pour laquelle il était venu. Et nous savons que c'était un événement difficile. Nous nous souvenons notamment des épisodes où le Seigneur a dit: mais si cette coupe pouvait s'éloigner de moi, non pas ce que je veux, Seigneur, mais ta volonté. Nous nous souvenons aussi lorsque le Seigneur priait et la Bible dit que sa sueur était semblable à des grumeaux de sang. Donc nous voyons là, par la prière de Jésus, par l'expérience qu'il vivait dans son corps physique, qui montrait clairement que cet acte-là était grave, cet acte-là était difficile. Et pour atteindre ce niveau, accepter d'aller jusqu'à la croix, lui qui était Dieu, lui qui était dans le trône, près du trône de son Père, qui a accepté de renoncer à cette gloire un temps pour venir se faire serviteur des hommes, c'était déjà compliqué. Encore venir sur la terre, être injurié, frappé par les hommes dont il était à l'origine, c'était aussi difficile. Et encore aller être humilié jusqu'à être crucifié sur la croix. Et pour accomplir ce sacrifice, le Seigneur savait qu'il fallait tout donner. Et la Bible nous dit que c'est ce qu'il a fait. Lorsqu'il savait que son moment était proche, alors il mit le comble à son amour. Tout l'amour qu'il pouvait avoir pour les hommes, tout l'amour qui pouvait demeurer en lui pour les siens, le Seigneur a mis tout en œuvre pour aller jusqu'au bout du sacrifice. Il n'a pas mis 50%, 70%, il a mis 100%. Et s'il pouvait plus, certainement qu'il l'aurait fait. Il a tout donné, la Bible dit, pour les siens. Il a mis le comble à son amour. Nous prenons, en retenant ce que nous venons de lire, toujours dans l'évangile de Jean, au chapitre 1er. Évangile de Jean, chapitre 1er, nous lisons à partir du verset 1er. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il apparut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière, qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Nous avons lu dans le chapitre 13 que le Seigneur a mis le comble à son amour. Tout ce qu'il pouvait mettre, tout l'amour qu'il pouvait manifester pour le salut des hommes, le Seigneur l'a fait parmi les siens. Et là, nous lisons qu'au commencement, on nous parle de la parole a été faite chair, mais on nous dit que cette parole était la véritable lumière, la lumière qui éclaire tout homme. Et la Bible nous dit au verset 11, « Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. » Dès le commencement, Jean nous annonce que cette lumière qui est Dieu lui-même, qui va être manifestée en chair, manifestée dans le Fils, a pour mission de venir dans le monde chez les siens pour leur salut. Et dès le commencement, Jean nous annonce que ceux-là qui sont les siens, le propre peuple, vont refuser. Malgré cette information, malgré cette connaissance que Dieu avait, il a pris quand même le temps, il a mis tout l'amour quand même pour venir descendre et vivre au milieu des hommes, malgré qu'il savait cela. Et la Bible nous dit au chapitre 13 que Jésus-Christ a mis le comble à son amour. Ça veut dire que lorsque le Seigneur allait accomplir ce sacrifice-là, il n'a pas gardé le souvenir des hommes en tant que mauvais, en tant que des hommes pécheurs, en tant que des hommes qui méritaient la mort. Mais il a tout simplement regardé à la mission pour laquelle Dieu l'avait envoyé. Il a regardé à l'amour que Dieu avait pour les hommes. La Bible nous dit qu'autrefois, nous étions loin de Dieu. Nous étions ennemis de Dieu. Et pour ces ennemis-là, le Seigneur a mis le comble à son amour. Parmi les gens du peuple, ceux dont la Bible dit en disant « les siens ne l'ont pas accepté », parmi ces siens-là, il y avait les pharisiens. Les pharisiens qui ont renié, malgré que les œuvres de Jésus-Christ étaient évidentes, les œuvres que Jésus-Christ a fait manifester clairement que seul Dieu pouvait faire ces choses-là, ils ont refusé de croire. Parmi les siens, il y avait les gens comme les Sadducéens qui refusaient de croire à la vie après la mort, qui refusaient de croire à la résurrection des morts. Parmi les siens, il y avait tous les gens du peuple qui se sont rassasiés à un moment donné, qui ont mangé lorsque Jésus-Christ a multiplié les pains, mais qui ont fini par crier « Crucifiez-le ». Parmi les siens, il y avait tous ceux qui l'ont injurié, qui l'ont dédaigné, qui n'ont fait aucun cas de lui, ceux qui l'ont maltraité sans cause, qui ont cherché à le pousser de la falaise, qui ont cherché à le chasser. Et c'est pour ces siens-là, toute cette catégorie de personnes, que le Seigneur a mis le comble à son amour. Il y a un verset que je cite souvent, Luc 6, 40, « Tout disciple accompli sera comme son maître. » L'objectif pour lequel le Seigneur nous a sauvés, c'est pour nous amener à la ressemblance de Jésus-Christ. C'est ce que la Bible nous dit dans Romains 8, 29. Nous avons été prédestinés à être semblables au Fils de Dieu. Et Jésus-Christ nous montre là l'exemple de l'amour par excellence. Connaissant le refus qu'il essuierait de la part des hommes, la Bible dit qu'il a quand même mis le comble à son amour. Il n'a pas regardé l'homme selon l'état dans lequel il était. L'amour qu'il avait pour les hommes a pris le dessus sur tous les mauvais actes et les mauvais penchants des hommes. Et parce que le Seigneur s'est montré lui-même en exemple, il nous demande maintenant d'en faire de même, d'être véritablement ses disciples, de marcher comme il a marché, de l'imiter et de poser les actes comme lui il les a posés. Il n'a pas regardé ses ennemis comme étant véritablement des ennemis, mais il les a regardés selon le plan que Dieu avait pour eux. Ainsi, nous avons autour de nous, nous avons peut-être connu des personnes dans notre passé qui nous ont fait souffrir gratuitement, qui nous ont fait du mal sans cause. Peut-être aujourd'hui encore, certains nous combattent encore. Mais quel est le regard que le Seigneur a sur toutes ces personnes? C'est ce regard-là que le Seigneur attend de nous. Que nous ne regardons pas ces personnes-là comme étant nos ennemis, mais nous les regardions simplement selon l'amour que nous avons reçu de Dieu. Si réellement nous sommes nés de Dieu, une des choses qui caractérise le Seigneur, la Bible nous dit dans 1 Jean 4:8, Dieu est amour. L'amour fait partie de la nature de Dieu intégralement. Dieu est amour. On ne peut pas lui enlever ça. Or, si nous sommes devenus enfants de Dieu, c'est que nous avons aussi hérité de la nature de Dieu. Et dans la nature de Dieu, il y a cette notion-là de l'amour qu'on ne peut pas enlever. Donc, si nous avons reçu l'amour et que nous marchons selon l'Esprit de Dieu, nous sommes appelés à faire les mêmes œuvres que le Seigneur. Souvent, lorsque le Seigneur dit dans la parole que vous ferez les mêmes œuvres que je fais et vous en ferez des plus grandes, on a tendance à s'arrêter au miracle. On a tendance à s'arrêter, je dirais, à ressusciter les morts, à faire marcher les boiteux, à donner la vie aux aveugles. Mais les œuvres que le Seigneur a faites, c'était aussi de pardonner ses ennemis. C'était aussi d'aimer ses ennemis. Ça fait partie des œuvres du Seigneur. Ce n'est pas simplement une question de prier que le malade soit guéri. C'est une chose que le Seigneur a fait. Et nous sommes appelés à faire la même chose. Gloire à Dieu. Mais le Seigneur s'est aussi sacrifié. Et nous sommes donc aussi appelés à nous sacrifier. Si nous acceptons ce passage-là, qui nous dit que nous ferons les mêmes œuvres que lui, nous devons aussi accepter le côté sacrifice. Nous devons aussi accepter le côté amour que le Seigneur a manifesté. Il a mis le comble, sachant que son heure était venue, malgré le refus des hommes. Nous avons des connaissances. Certainement qu'il y a des personnes qui se sont moquées de nous parce que nous sommes devenus chrétiens. Il y a peut-être des personnes qui continuent à nous combattre encore, simplement à cause du choix que nous avons fait d'être enfants, de devenir enfants de Dieu. Et bien souvent, le dessus, la chair reprend le dessus. Et nous avons une tendance à tomber dans la colère, à haïr quelquefois, à murmurer. Le murmure, la colère vis-à-vis d'un autre homme ne reflète pas la nature de Dieu. Voilà ce que le Seigneur nous dit dans Matthieu chapitre 5. Parce que lui nous a montré l'exemple, il nous donne cet ordre-là. Matthieu 5 au verset 44. Nous connaissons tout ce passage-là en théorie. En pratique, c'est autre chose. Dieu nous le demande parce que c'est devenu possible. Et nous ne nous cachons pas, nous reconnaissons que c'est difficile à la chair. Mais si le Seigneur nous le demande, c'est qu'il nous en donne la possibilité. Matthieu 5, 44. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Moi, je vous dis, dit le Seigneur, aimez vos ennemis. L'amour, c'est la nature de Dieu. Et nous sommes devenus enfants de Dieu. Et par conséquent, nous sommes appelés à manifester cette nature-là. Le Seigneur dit que si vous ne pardonnez pas, moi non plus, je ne vous pardonnerai pas. Si le Seigneur est catégorique et ferme sur cette position, c'est parce qu'il estime que nous avons la capacité de pardonner. Mais le pardon est premièrement une question de choix. On ne dit pas que effacer le mauvais sentiment qu'on a vis-à-vis de la personne qui est dans le cœur, on ne dit pas que c'est en claquant des doigts comme ça que par notre propre force, notre propre intelligence qu'on pourra le faire. Mais on dit tout simplement qu'il doit y avoir de notre part une volonté. Et c'est à partir de cette volonté-là que l'œuvre du Saint-Esprit peut se faire en nous afin que cela soit matérialisé, que ça devienne quelque chose de vrai, que nous soyons en paix vis-à-vis de toutes les personnes qui peuvent être considérées comme étant des ennemis. Le Seigneur dit « Aimez vos ennemis ». Comment les aimer? En les bénissant. Bénir une personne, c'est lui souhaiter que les bonnes choses. C'est ce que le Seigneur attend de nous. Quelquefois, on dit, mais comment aimer? On reste là debout, on a l'impression que simplement le temps fera en sorte que le mauvais sentiment s'efface. Mais le Seigneur n'attend pas de nous que nous soyons tout simplement dans la position pause, en stand-by. Ce que le Seigneur veut, c'est que nous soyons dans l'activité, que nous soyons dans une démarche qui montre réellement que nous voulons les aimer. Non pas simplement dans l'attente ou dans l'ignorance, comme certains font, ou dans l'indifférence, je veux dire. Ou bon, je vais pardonner, mais voilà, ça s'arrête là. Et en quelque sorte, on dit, mais je ne veux plus avoir affaire à lui. J'ai pardonné, qu'il reste dans son coin, je reste dans mon coin. Et le temps passe ainsi. Ce n'est pas ce que Dieu nous demande. Il dit, aimez vos ennemis. Mais ensuite, il nous donne la marche à suivre. Il dit, bénissez-les. Ne reste pas dans l'attente en te disant, c'est vrai, j'ai eu un problème avec lui, c'est terminé et on passe à autre chose. Cette personne que tu peux considérer comme un ennemi, Dieu veut que tu la bénisses. Dieu veut que tu aies le souci que cette personne réussisse, que cette personne connaisse et vive des bonnes choses. Bénissez toutes ces personnes-là. Que nous soyons dans cette activité, que nous ayons le souci que ces personnes-là, en réalité, connaissent Dieu. C'est ça la plus grosse bénédiction que nous pouvons souhaiter. Mais nous ne pouvons pas nous réjouir de leur malheur. Nous ne pouvons pas nous réjouir de leurs épreuves. Mais nous devons les bénir. Nous devons souhaiter qu'il ne leur arrive que des bonnes choses. Afin qu'ils finissent aussi, bien sûr, par glorifier Dieu. Mais ce que le Seigneur veut, c'est que nous soyons en mouvement. Non pas simplement de dire, bon, j'ai pardonné, ça s'arrête là. Tu as pardonné, c'est une chose de la bouche. Mais il faut qu'il y ait les actes que nous allons poser qui montrent réellement que nous voulons entrer dans cet amour-là vis-à-vis de nos ennemis, vis-à-vis de ceux qui nous persécutent. Que nous ayons le souci de les bénir en tout temps et en toutes circonstances. Le Seigneur dit, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Comment aimer nos ennemis? En faisant du bien lorsque l'occasion se présente. L'hospitalité, par exemple. La personne passe chez nous. On a le choix d'être indifférent. De se dire, après tout, c'est pas moi qu'elle est venue voir, c'est le frère, c'est la sœur, donc moi je vais ignorer. C'est pas ce que Dieu nous demande. Faites du bien. Les termes qui sont donnés sont des termes qui sont très simples. Je dis souvent qu'il y a des choses dans la Bible quelquefois qui sont compliquées à comprendre, qui nécessitent une longue méditation, qui nécessitent des explications quelquefois de la part des aînés. Mais je dis que tout ce qui est propre à notre salut, tout ce qui est indispensable, important pour notre salut, le Seigneur s'est toujours exprimé d'une manière très claire. Et dans ce passage, lorsque nous demandons d'aimer nos ennemis, il n'y a pas de mot plus clair que le Seigneur emploie pour nous faire comprendre combien c'est important. Lorsqu'on dit « bénissez ceux qui vous persécutent », Je ne vois pas lequel d'entre nous ne peut pas comprendre ça. Lorsque le Seigneur dit « Faites du bien », faire du bien, c'est quelque chose que tous nous pouvons comprendre. Et c'est ce que Dieu nous demande de faire. De faire du bien. Comment les aimer en faisant du bien? Ça ne veut pas dire, bien aimé, qu'on va le faire en chantant. Ça ne veut pas dire qu'on va le faire forcément dans la joie. Nous faisons les choses parce que nous savons ce que Dieu attend de nous et ce qui est bon de faire. Lorsque nous mangeons, lorsque nous sommes malades, ce n'est pas forcément parce que nous avons de l'appétit et le goût de manger. Nous mangeons parce que c'est nécessaire à ce moment-là. Il y a certains médicaments que nous prenons qui peuvent être, qui peuvent irriter l'estomac, qui nécessitent que nous mangeons quelque chose. Et bien souvent, on n'a pas le goût de manger, mais on s'efforce de manger quelque chose uniquement par nécessité. Et faire le bien, c'est quelque chose qui doit devenir une nécessité pour l'enfant de Dieu, puisque nous sommes entrés désormais dans une nouvelle vie propre à la nature de Dieu, qui est de faire du bien aux hommes. Donc ainsi, le Seigneur nous dit, ces ennemis-là, faites-leur du bien. Nous ne disons pas simplement, bon, je n'ai pas de problème avec lui. Non, Dieu veut que nous allions beaucoup plus loin. Que, la confession que nous avons faite, la prière que nous avons faite, où nous avons reconnu que, oui, je n'ai plus de problème, j'ai demandé pardon ou bien j'ai pardonné. Seigneur, oui, je veux l'aimer. Ça, c'est de la bouche. Mais le Seigneur veut que nous puissions poser des actes concrets. Que nous puissions poser des actions qui montrent clairement que, oui, nous sommes dans une démarche dans laquelle nous voulons aimer même ceux qui nous haïssent, même ceux qui nous souhaitent le malheur, même ceux qui nous maudissent, nous voulons leur faire du bien. Parce que c'est ce que le Seigneur nous demande de faire. Et combien même ça peut être difficile dans la chair, ça peut être difficile dans le cœur, nous le faisons parce que c'est essentiel. Celui qui est né de Dieu n'a pas une autre manière de vivre, ne peut pas épouser une autre manière de vivre que celle du Seigneur Jésus. L'apôtre Jean a dit, petits enfants, n'aimez pas simplement avec la langue, mais aimez aussi en action et en vérité. Aimez avec des actes. C'est ça le véritable amour. Le véritable amour ne se limite pas à la confession de la bouche, mais va beaucoup plus loin que ça. Ce que nous confessons doit être matérialisé par des actes concrets. Et c'est ce que le Seigneur nous dit. Aimez vos ennemis, mais il nous dit voilà comment, en leur faisant du bien. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et je peux nous assurer, bien-aimés, que lorsque nous sommes dans ces dispositions-là, sans le chercher, le Seigneur permettra des situations où nous serons amenés à faire du bien à toutes ces personnes. Peut-être en voiture, tu roules, la personne qui t'avait maltraité sans cause, tu la croises peut-être dans la rue avec des sacs chargés de courses, et c'est toi qui passes par là. Tu lui proposes un coup de main. Les situations se manifesteront. Parce que le Seigneur veut nous faire entrer dans cette réalité. Ce n'est pas quelque chose que l'homme a inventé ou bien que nous choisissons, nous provoquons. Non, le Seigneur veut nous amener à la stature parfaite de Christ. Qui vont nous obliger à pratiquer cela. Et je dis souvent que celui qui est bien placé, c'est celui que Dieu met dans les dispositions de vivre la Bible. Lorsque Dieu nous met face à un ennemi et qu'il nous demande de le bénir, aussi grande la difficulté peut être bien aimé, mais la réalité c'est que le Seigneur nous met dans une position où là nous pouvons accomplir un acte approuvé et attendu de Dieu. C'est pourquoi Jacques nous dit, lorsque les épreuves arrivent, recevez-les avec joie. L'épreuve est un moment dans lequel nous pouvons maintenant vivre certaines choses de la Bible que nous ne pouvons pas vivre en dehors des épreuves. Accepter la soumission vis-à-vis de Dieu. Continuer à louer Dieu, à proclamer que Dieu est Dieu, malgré les épreuves, malgré la maladie. Continuer à espérer que Dieu est celui qui guérit. Continuer à prêcher que le Seigneur est celui qui guérit. C'est une des occasions que Dieu nous donne lorsque nous sommes dans l'épreuve. Et c'est pourquoi Jacques disait, recevez ça avec joie. C'est une manière de nous dire, comme Paul aussi l'a dit, toutes choses concourent pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Forcément, nous allons sortir gagnants, d'une certaine manière, de cette épreuve-là. Donc, lorsque le Seigneur nous demande d'aimer nos ennemis, c'est pour nous amener à un objectif précis. Et c'est ce que le Seigneur dit par la suite, que nous allons lire aussi. Il dit, priez pour ceux qui vous maltraitent. Priez pour ceux qui vous maltraitent. Lorsque l'on parle de prière pour une personne, on fait référence à l'intercession. Ça veut dire qu'on va crier à Dieu. On va prendre du temps, quelquefois même dans le jeûne, pour des sujets qui ne nous concernent pas. Celui qui prend l'habitude de prier pour les autres, celui qui prend l'habitude de prendre l'intercession au sérieux, c'est celui-là qui va grandir dans l'amour. Parce que disposer de son temps pour des sujets qui ne concernent pas, qui ne nous concernent pas directement, ne peut que nous faire grandir dans l'amour. Ça veut dire que c'est un temps que nous consacrons uniquement pour les autres. C'est un temps que nous consacrons uniquement pour faire du bien aux autres. C'est pourquoi le Seigneur dit, priez même pour ceux qui vous maltraitent. C'est une démonstration que nous sommes engagés dans une procédure de vouloir aimer, que ça devienne quelque chose de vrai. On ne veut pas simplement se limiter à dire, il est dans son coin, je suis dans mon coin, je l'ai pardonné, on s'est pardonné, ça s'arrête là. Dieu dit, non, va beaucoup plus loin que ça. Prie pour lui. Même s'il t'a maltraité, même s'il te maltraite, même s'il raconte des choses sur toi, le Seigneur dit, prie pour lui. La prière pour l'autre, c'est une démonstration d'amour. C'est pourquoi à plusieurs reprises dans la Bible, on nous dit, priez les uns pour les autres. Priez les uns pour les autres. Comment nous soutenir? C'est en priant les uns pour les autres. Mais comment soutenir une personne que tu n'aimes pas? On ne peut pas soutenir une personne qu'on n'aime pas. On fera tout pour l'éviter. Mais la Bible nous demande de nous soutenir les uns les autres. C'est une manière de démontrer l'amour que nous avons les uns pour les autres. Et Dieu prend plaisir à ça. Priez même pour ceux qui vous haïssent, ceux qui ne peuvent même pas vous voir, lorsqu'ils peuvent même changer de trottoir. On est dans la foule, il salue et il fait comme s'il ne t'a pas vu. Ta simple présence l'énerve. Le Seigneur dit, priez pour toutes ces personnes-là. Prions pour toutes ces personnes-là. C'est comme ça que nous allons manifester l'amour que nous voulons, dans lequel nous voulons entrer même pour nos ennemis. C'est ce que le Seigneur attend de nous, parce que c'est ce qu'il a fait. Il a dit que, la Bible nous dit qu'il a mis le comble à son amour. Il n'a rien retenu. Il a mis le comble à son amour pour les siens. Or, nous avons bien lu que les siens-là, la Bible dit qu'ils ne l'ont point reçu. Mais malgré cela, le Seigneur a mis le comble à son amour. Et nous sommes appelés à vivre de cette manière-là, en aimant nos ennemis, en bénissant ceux qui nous maudissent, en faisant du bien à ceux qui nous haient, en priant pour ceux qui nous maltraitent et pour ceux qui nous persécutent. C'est à ça que nous sommes appelés. Et voilà au verset 45, l'une des raisons, l'une des conséquences, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, afin que nous soyons à l'image de notre Père. Nos enfants nous ressemblent. On ne donne que ce qu'on a. Ils nous ressemblent quelquefois physiquement, quand ce n'est pas trop physiquement, par le caractère, par la manière de marcher, par la manière de parler. Il y a un lien qui fait qu'on sent que, effectivement, ce sont les enfants de tel ou de tel. Et Dieu nous dit que c'est en aimant nos ennemis que nous arrivons maintenant à lui ressembler. C'est en aimant nos ennemis que nous manifestons maintenant la nature de Dieu. C'est comme ça que le Seigneur veut que nous puissions lui ressembler, que nous puissions manifester clairement que nous sommes de lui, c'est en aimant nos ennemis. Et lorsqu'on lit plus bas, le Seigneur fait le parallèle. Il dit, mais si vous faites les choses comme les païens ou les publicains, il dit, mais quelle différence y a-t-il maintenant? Il n'y a plus de différence. Donc lorsque le Seigneur parle de ça, il veut nous amener à être différents de ce qui se fait dans le monde, à être différents de ce que nous voyons dans le monde. Pourquoi? Parce que nous sommes de lui. Et si nous sommes de lui, il faut que cette différence se voit aussi à l'œil nu. Dans notre manière de vivre, on doit définir que oui, effectivement, nous ne sommes plus de la terre, nous sommes devenus enfants de Dieu. Et l'une des caractéristiques d'un enfant de Dieu, c'est d'aimer ses ennemis. Le Seigneur dit, c'est ainsi, comme il le dit, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Notre appartenance à Dieu dépend aussi de l'amour que nous éprouvons pour nos ennemis. Ça veut dire tout simplement que lorsque nous n'aimons pas nos ennemis, nous ne sommes pas arrivés, nous sommes encore loin de la ressemblance de Dieu. Or, le Seigneur veut que nous puissions lui ressembler. Si Dieu le fait, bien-aimé, c'est parce que, nous l'avons dit, Jésus-Christ l'a manifesté. Et si nous voulons parler comme le Seigneur en parlant de Dieu le Père, il nous a aimés même lorsque nous étions loin de lui. le Seigneur a manifesté cet amour même lorsque nous étions dans toutes sortes de mouvements, dans toutes sortes de formes de vie qui étaient une abomination à ses yeux. Le Seigneur nous a aimés, nous étions ses ennemis. Peut-être certains l'ont même combattu en prêchant autre chose que l'évangile. Nous étions ennemis de Dieu et il nous a aimés. La preuve, c'est que nous sommes aujourd'hui ici et que nous pouvons entendre l'évangile. C'est parce que le Seigneur a manifesté cet amour-là pour que nous ayons la vie et que nous puissions désormais vivre comme lui. C'est ainsi que nous allons lui ressembler. Car lui-même, le Seigneur, il fait pleuvoir sur les bons et il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Donc, à l'image de notre Seigneur, malgré la méchanceté des hommes, les hommes continuent à profiter de tous les bienfaits de Dieu. La nature, le soleil, la mer, tout ce que les hommes prennent plaisir à faire sur cette terre, ce n'est pas la grâce de Dieu. C'est une démonstration de l'amour que le Seigneur a pour les hommes. Donc c'est une manière de nous dire, mais si le Seigneur lui est capable de faire du bien à ceux qui le détestent, à ceux qui le haient, nous qui ne sommes pas plus que Dieu, pourquoi refuserions-nous de le faire? Si Dieu qui déteste le péché, si Dieu qui hait le monde dans lequel nous sommes remplis de péché, arrive à faire du bien aux hommes, alors il dit que nous aussi, nous devons pouvoir faire le bien. Parce que nous ne sommes pas plus justes que Dieu. Nous ne sommes pas meilleurs que Dieu, loin de là. C'est impossible. Mais si Dieu arrive à faire ce bien-là, arrive à pardonner, alors il nous demande aussi de pouvoir le faire. Parce que la réalité, c'est que si nous avons été sauvés, comme je dis, c'est peut-être parce que nous étions pires, très loin de Dieu, plus que certains qui sont encore dans le monde. Dieu a eu pitié de nous et il aura aussi pitié des autres. Alors nous devons considérer, bien aimés, que nous n'avons pas été meilleurs que les autres. Nous nous sommes humiliés quand il fallait, par la grâce de Dieu, et nous bénissons Dieu pour cela. Mais nous ne devons pas oublier où nous étions, dans quel état nous étions, afin de faire preuve d'indulgence pour toutes les personnes qui sont encore loin de Dieu. Vous savez, lorsque on travaille à aimer les personnes, ça nous aide aussi à comprendre certains faits. Il y a des gens qui sont mauvais parce que leur cœur est comme ça. Il y a des gens qui sont mauvais parce qu'ils ont eu peut-être un passé difficile. Ils ont eu peut-être une enfance difficile. Et souvent, lorsqu'on ignore les réalités qui se sont passées dans la vie des uns et des autres, nous avons quelquefois des positions qui ne sont pas des positions d'amour. Mais lorsque l'on aime véritablement, ça permet d'avoir un autre regard sur la personne. Ça permet de comprendre. Ça permet de faire preuve d'indulgence. Et ça permet d'aimer plus facilement. Ça permet de pardonner plus facilement. Lorsqu'on fait le choix d'aimer, les portes s'ouvrent parce que nous regardons les choses comme Dieu et nous pouvons désormais comprendre. Dieu nous a aimés. Souvenons-nous que lorsque le Seigneur a voulu détruire toute l'humanité, il s'est souvenu de Noé. Il s'est souvenu de Noé et il a compris que la faiblesse même se trouvait dans l'homme. Le Seigneur a eu une forme de compassion et a fait en sorte d'établir notamment la notion de sacrifice pour le pardon des péchés. Le Seigneur dit que, sous la loi de Moïse, on avait toléré le divorce. On avait toléré, le fait que certains aient plusieurs femmes. Ce n'était pas que Dieu voulait ça. Mais Dieu était dans une forme de compassion vis-à-vis de l'homme dans laquelle il pouvait comprendre, entre guillemets, la faiblesse de l'homme. Et aujourd'hui, nous avons le Saint-Esprit qui nous aide à vivre la parole de Dieu. Mais plusieurs versets de la Bible nous montrent que nous pouvons encore nous repentir. Donc si le Seigneur nous a donné la possibilité de nous repentir encore, c'est qu'il est conscient que la faiblesse est toujours là. Et c'est dans son amour que le Seigneur permet tout cela. Parce qu'il veut, il essaye de nous comprendre. Bien qu'il ne comprenne pas le péché, mais il fait en sorte de nous mettre dans des bonnes dispositions pour que nous puissions aimer comme lui a aimé. Ce n'est qu'une question de choix. aimer nos ennemis. Nous avons regardé un jour le témoignage d'Edmé Cottier. Voilà, cette femme, je crois, d'origine belge, qui était partie en Afrique pour faire le travail missionnaire. Et il s'est passé la guerre et ils ont été pris en otage plusieurs personnes. Et là, elle avait déjà passé du temps puisqu'elle était très âgée, je crois plus de 70 ans. Et on les a pris en otage et ils ont marché des kilomètres et des kilomètres, des semaines et des mois dans la forêt, pieds nus. Et lorsqu'elle témoignait, elle disait qu'il y avait d'autres personnes qui étaient prises en otage, qui vivaient très mal la chose. Ils étaient très mal. Elle a dit, ils étaient mal ces gens, c'est parce qu'ils avaient de la haine pour leur ravisseur. Elle a dit, mais moi je n'avais pas ça, parce que la haine est trop difficile à porter. La haine enlève la paix. La haine enlève la joie. Et ces gens-là n'ont pas pu supporter cette captivité parce qu'ils avaient de la colère vis-à-vis de ces ravisseurs. Mais elle, qui était un enfant de Dieu, elle dit, je n'avais pas cette paix. C'est pourquoi j'ai pu supporter jusqu'au bout. Et c'est ça la réalité. Lorsqu'on est animé de l'amour, la vie chrétienne devient encore beaucoup plus simple. Mais lorsqu'on a la colère vis-à-vis des gens, on commence à choisir les endroits que nous pouvons fréquenter. Or, c'est quoi la véritable liberté ? La véritable liberté, c'est d'être à l'aise partout où nous sommes. De ne pas être dérangé par qui que ce soit. Quelle que soit la présence dans laquelle nous sommes dans la paix. Pourquoi ? Parce que nous avons l'amour. Mais lorsqu'il y a un manque d'amour, là oui, nous sommes dans le dérangement. Nous ne sommes pas en paix. Nous regardons le temps pour savoir à quel moment cette personne va quitter la pièce. Nous comptons le temps pour savoir à quel moment cette personne va se taire. Parce qu'on est dérangé. Mais celui qui a l'amour véritable n'est pas dérangé par qui que ce soit. Même quand son ennemi est là, il n'est pas dérangé. Parce qu'il aime tout simplement. Quand bien même nos enfants font des bêtises bien aimées, ce n'est pas pour ça qu'on les chasse de la maison. Ce sont nos enfants, on les aime. Comme ça, ils font des bêtises, mais on ne les chasse pas. Parce que l'amour est là. Et c'est dans cet amour que le Seigneur nous appelle à vivre. Nous prenons Luc chapitre 23. Je vais prendre deux exemples. Le premier exemple du voleur à la croix. Encore un exemple de l'amour que le Seigneur a manifesté. Luc 23, au verset 39. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant, « N'es-tu pas le Christ ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Mais l'autre le reprenait et disait, « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation ? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et il dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Jésus lui répondit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Cet homme dit, « Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras. » Il avait pris conscience que le Seigneur reviendrait. Et nous nous souvenons que lorsque le Seigneur a déroulé le livre en lisant la prophétie, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint. Donc nous voyons que lorsque le Seigneur lit cette prophétie pour annoncer la mission et l'œuvre pour laquelle il est venu, il va s'arrêter à la première partie de la prophétie qui annonce une année de grâce, qui annonce le salut. Or, la deuxième partie de la prophétie d'Ésaïe annonce aussi le jugement. Et ce jugement-là fait référence à la seconde venue de Jésus. Et ce voleur dit que lorsque tu viendras, souviens-toi de moi. Cet homme s'était repenti et il avait saisi quelque chose sur la nature même du Seigneur. Parce que si le Seigneur devait revenir dans les intentions qui sont les siennes, quel souvenir devait-il garder de cet homme-là ? Comme un homme bon, cet homme était sur la croix. La croix était le signe du jugement par les hommes. Le fait d'être sur la croix témoignait que cette personne avait eu une mauvaise vie. Donc s'il y avait un souvenir à garder de cet homme, c'était le souvenir d'un voleur. C'était le souvenir de quelqu'un qui n'était pas sociable, de quelqu'un qui ne pouvait pas vivre, s'intégrer dans la société. Mais il dit, Seigneur, souviens-toi de moi. parce qu'il avait cette certitude-là, que le souvenir que le Seigneur garderait de lui allait être lié tout simplement à l'amour de Dieu, que le Seigneur ne retiendrait pas ses péchés. Celui qui aime ne retient pas le péché, ne retient pas les fautes qu'on lui a commises. Lorsqu'on s'oriente dans une démarche d'amour, on doit faire la démarche d'oublier ce qui a été avant. On doit accorder, entre guillemets, une deuxième chance. Cet homme-là savait que si le Seigneur devait revenir, il aurait sa chance. Il a dit, Seigneur, souviens-toi de moi. S'il était certain que Dieu viendrait pour le juger, pour le condamner, il ne l'aurait pas dit. Et nous sommes appelés, comme je l'ai dit, à être à l'image de Jésus. Pardonnons véritablement. Aimons nos ennemis en oubliant ce qui a été autrefois. Le fait de s'orienter dans une démarche d'amour, bien-aimé, c'est une manière aussi d'accepter que Dieu seul est maître en termes de jugement et de condamnation. Aimons. Cet homme-là a été justifié par le Seigneur qui lui a dit « Aujourd'hui même tu seras avec moi ». Uniquement parce qu'il avait fait une bonne action de croire que Jésus-Christ était le Messie. Voilà la seule bonne action que ce malfaiteur va faire. Et c'est uniquement cela que le Seigneur va retenir pour lui dire « Aujourd'hui tu seras avec moi au paradis ». Même parmi nos ennemis, peut-être une fois on avait faim, ils nous ont nourris. Peut-être une fois on avait soif, ils nous ont donné un verre d'eau. Peut-être un bien qu'ils nous ont fait, qui pouvait paraître insignifiant. Mais lorsqu'on veut aimer, on garde en souvenir même le petit bien qu'ils nous ont fait. Et pour le mal qui a été fait, on laisse ça entre les mains de Dieu. Aimer, c'est aussi faire le choix que Dieu seul est capable de juger. Lorsque l'on hait une personne, c'est qu'on l'a jugé, c'est qu'on l'a condamné déjà. C'est pourquoi le Seigneur dit que celui qui hait son frère est un meurtrier. Le sentiment qui pousse à tuer, même si toi tu dis que moi je ne tue pas, mais celui qui a tué, il a commencé à nourrir le sentiment de colère peut-être que tu gardes. Le sentiment de haine peut-être que tu gardes. Ça a commencé par ça. Donc quand le Seigneur dit que celui qui est son frère est un meurtrier, c'est pour dire que le même sentiment qui pousse à tuer, c'est le même sentiment de haine. C'est comme quand on dit amour, l'amour c'est l'amour. Voilà, l'amour c'est l'amour. Donc la haine c'est la haine. Pour le Seigneur, il n'y a pas, je dirais, de mesure de haine. Voilà, c'est pas j'aime, je hais 0,01, je hais 0,02, je hais 1%, je hais 10%. Non, haïr, c'est haïr pour Dieu. C'est pour dire que celui qui hait son frère, c'est un meurtrier. Parce que le sentiment qui pousse au meurtre, c'est le même. C'est le même sentiment. Donc, garder ça nous fait totalement sortir de la nature de Dieu. Or, le Seigneur veut que nous puissions nous garder le souvenir, même de la petite chose qui nous a été faite. Souvenons-nous du passage que nous avons lu mardi de Samuel sur le cantique que David a écrit après qu'il ait entendu la mort du roi Saül et de son fils Jonathan. Lorsque l'on lit le cantique de David, il dit « Mais comment des héros peuvent-ils mourir comme ça ?» David a pleuré, il était dans la tristesse et lorsqu'on lit le cantique, c'est presque que des éloges qu'il fait. Mais pourtant, lorsque l'on sait quel était le personnage de Saül, quel comportement Saül a manifesté vis-à-vis de David, il a été obligé de fuir, se cacher dans les grottes pendant des années, parce que gratuitement, uniquement par jalousie, Saül voulait le faire mourir. Saül était véritablement ennemi de David. Mais voici, lorsque David va entendre sa mort, il va le pleurer comme si c'était un frère. David a gardé le souvenir de Saül comme étant le roi d'Israël. Il n'a pas gardé le souvenir de Saül comme étant son ennemi. À plusieurs reprises, il a eu l'occasion de le tuer. Mais il a dit, je ne toucherai pas à loin de l'Éternel. Il a dit à Saül, c'est Dieu qui jugera entre toi et moi. Donc le sort de David, de Saül, David a préféré laisser ça entre les mains de Dieu. Lui, il a préféré s'orienter dans une voie tout simplement de pratiquer l'amour. Et il a gardé le souvenir de Saül comme le roi d'Israël. Le côté ennemi, il a dit, Dieu jugera entre toi et moi. C'est ça que le Seigneur nous demande, bien-aimés, de retenir le petit bien qu'on nous a fait et de bénir les personnes pour cela. Même si tu as été élevé dans une maison difficile, par des tantes, des oncles, je ne sais pas, compliquées, par des parents difficiles, mais on t'a nourri. On t'a soigné quand tu étais malade, même si on t'a battu après. On a peut-être été plus loin, mais pour le bien qu'ils t'ont fait, bénis-les tout simplement. Et pour le mal, laisse-les entre les mains de Dieu. Ça appartient à Dieu. Dans notre marche avec le Seigneur, il y a toujours la part de Dieu et la part de l'homme. Dieu nous demande d'aimer. Le jugement et la condamnation lui appartient à lui seul. Gardons le bon souvenir de ce qu'on nous a fait. Et pour tout ce qui est mal, laissons ça entre les mains de Dieu. Dieu seul s'en occupera. Lui, ce qu'il veut, c'est que nous soyons à l'image de Jésus-Christ, qui a mis le comble à son amour pour tous ceux qui l'ont renié, pour tous ceux qui l'ont insulté, pour tous ceux qui l'ont rejeté. Il n'a pas retenu les injures. Lorsqu'on l'a crucifié, il a dit, Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Le Seigneur n'a pas retenu ce qui s'était passé il y a quelques minutes, il y a quelques heures, il y a quelques jours. Il a dit, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Tout disciple accompli sera comme son maître. Dans 1 Pierre chapitre 3, il est écrit, femme, que chacune soit de même soumise à son mari, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme, en voyant votre manière de vivre chaste et respectueuse. Ce passage, qui s'adresse directement aux femmes, même les hommes d'un regard spirituel, d'une oreille spirituelle, peuvent comprendre et peuvent se l'approprier aussi. Il nous est dit là que les femmes qui ont des mauvais maris, qui ne veulent pas se soumettre, dans votre manière de vivre, vous allez les gagner. Si vous persévérez dans la pratique de la parole, dans la soumission, telle que Dieu le veut, le Seigneur dit que c'est comme ça que vous les gagnerez. Faire le choix d'aimer, c'est une manière d'évangéliser. C'est une manière de montrer à nos ennemis qui est véritablement Dieu. Il y a des gens qui sont remplis de haine parce qu'ils ne savent pas ce que c'est qu'aimer. Ils n'ont jamais vraiment connu ce qu'est l'amour. Ils n'ont peut-être pas été aimés depuis très tôt. Donc, ils n'ont pas de repère par rapport à l'amour. Et ils ont besoin de voir véritablement qu'est-ce que c'est que l'amour. Et c'est le conseil que l'apôtre Pierre donne aux femmes, de ne pas se décourager, mais de continuer à persévérer, à pratiquer la Bible, afin de les gagner, comme il dit, afin de les gagner par votre comportement, sans parole, donc simplement en témoignant, en manifestant l'amour vis-à-vis de nos ennemis, c'est une manière aussi de montrer, Seigneur, nous voulons les gagner à toi. Nous ne voulons pas être une pierre d'achoppement. Ils se considèrent nos ennemis pour les raisons qui sont les leurs. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que Dieu les aime aussi. Or, l'amour que Dieu veut leur manifester, Dieu veut le faire en passant par nous. Le Seigneur dit dans sa parole que ton père et ta mère peuvent te rejeter, mais moi, l'Éternel, je te recueillerai. Et je ne crois pas que lorsque le Seigneur a dit les choses ainsi, il voulait dire par là que si ta mère et ton père te rejettent, je vais prendre l'apparence d'un père ou bien d'une maman, je vais venir m'occuper de toi, je vais te recueillir. Ce n'est pas ce que Dieu a voulu dire. Le Seigneur a voulu tout simplement manifester clairement qu'il prendra soin de nous. Or, la manifestation de l'amour de Dieu se fait aussi en utilisant les hommes. Lorsque nous bénissons Dieu, ce n'est pas parce que la bénédiction est tombée du ciel. Dieu nous a bénis quelquefois en passant par les uns et les autres, par des hommes physiques. Et c'est comme ça que Dieu fonctionne. Donc, ceux qui sont nos ennemis, qui ne connaissent pas Dieu, C'est par nous aussi que le Seigneur veut passer pour se révéler à eux. Donc accepter de marcher dans l'amour, d'aimer nos ennemis, c'est aussi manifester le souci qu'ils connaissent Dieu, qu'ils voient Dieu. Le Seigneur Jésus a dit que celui qui m'a vu a vu le Père. C'était une manière de vivre, de dire que dans sa manière de vivre, dans sa manière de fonctionner, il manifestait clairement la nature de Dieu. Et c'est ce que le Seigneur aussi attend de nous, afin que les gens aient un vrai regard sur le christianisme. Que ça ne s'arrête plus aux échos qu'ils ont entendus, et finalement des échos qui sont rapidement balayés d'un revers parce que il y a du désordre dans les églises aujourd'hui, il y a du désordre parmi la vie des chrétiens, ceux qui se disent chrétiens mais qu'on retrouve dans les bars, qui se disent chrétiens mais qui se mêlent à la foule, qui parlent comme les païens. Il y a un désordre qui font que les gens balayent d'un revers lorsqu'on parle de Christ. Mais comme il est écrit là, afin de les gagner même sans parole, simplement par le témoignage, en les aimant, en leur faisant du bien. C'est un choix que Dieu n'imposera à personne, mais c'est un choix que nous avons fait au moment où nous avons confessé que Jésus-Christ était notre Seigneur et Sauveur. Nous nous sommes inscrits dans cette logique-là. Et si nous ne pratiquons pas cela, ce qui est sûr et certain, c'est qu'il y a un certain niveau qu'on ne pourra pas dépasser avec Dieu. Si on ne marche pas tel que le Seigneur nous le conseille, ce qui est sûr et certain, c'est qu'il y a une étape qu'on ne franchira pas avec Dieu. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles beaucoup stagnent, beaucoup n'avancent pas dans la vie chrétienne. Parce qu'il n'y a pas cette démarche-là qui est faite sincèrement de vouloir aimer. C'est un choix et Dieu nous aidera. Comme je l'ai dit, bien-aimé, il n'y a rien qui soit simple dans la chair. Mais celui qui fait véritablement le choix de vivre selon les Écritures, Dieu le soutiendra parce que c'est ça sa volonté. Ne nous privons pas de liberté en murmurant, en étant dans le manque de paix vis-à-vis de nos ennemis, en fuyant les appels téléphoniques lorsqu'on voit que c'est elle. Ça, ce n'est pas la vie. Ne plus être libre de décrocher. Ne plus être libre de dire à la personne « Non, je ne suis pas d'accord. Non, je ne veux pas. » Des fois, on a peur de décrocher parce que ce sont des personnes pour lesquelles on a du mal à dire non. Voilà, ce sont des personnes, dès qu'elles parlent, donc on dit oui et amen à tout. Donc, des fois, on essaie de fuir. Ça, ce n'est pas être libre. La liberté, c'est de pouvoir dire « Je ne suis pas d'accord. » Avec amour, mais « Je ne suis pas d'accord. » Soyons libres dans le Seigneur. Aimons même nos ennemis. Ce sont aussi des instruments que Dieu utilise aussi pour nous obliger à nous soumettre à sa parole, pour nous obliger à grandir dans l'amour. Dieu est au contrôle de toutes choses. La Bible nous dit dans le livre des Proverbes que Dieu a fait toutes choses avec un but, même le méchant. Serrons la parole de Dieu, que Dieu nous aide vraiment à faire ce choix-là d'aimer nos ennemis et il nous aidera, il nous soutiendra. À Jésus-Christ seul soit la gloire. Amen. Seigneur, nous savons que ta parole est vérité. Mais tu sais aussi, Seigneur de gloire, combien nous sommes faibles sans toi, Seigneur. Tu sais, Seigneur de gloire, combien certaines choses nous paraissent, Seigneur de gloire, comme des montagnes, Seigneur. Mais nous avons compris aussi qu'avec toi, tout est possible. C'est pourquoi nous ne voulons pas regarder à notre faiblesse. Nous ne voulons pas regarder à nos incapacités, Seigneur. Mais nous voulons regarder simplement à ce que toi, tu es capable de faire. Et si tu nous demandes d'aimer nos ennemis, Seigneur, c'est parce que tu nous en donnes la force. Tu es prêt à nous soutenir pour cela, Seigneur, afin que nous soyons véritablement tes enfants. Seigneur, nous t'implorons, nous crions à toi, Seigneur, afin que dans ta fidélité, tu nous soutiennes. Tu nous aides, Seigneur de gloire, à persévérer. Quand bien même, Seigneur de gloire, nous essuyons des défaites, Seigneur, des déceptions. Seigneur, nous ne voulons pas nous relâcher à faire le bien. Tel que c'est écrit, ne vous lassez pas faire le bien, vous moissonnerez au temps convenable. Seigneur, aide-nous. Aide-nous, Seigneur de gloire, parce que nous reconnaissons que c'est difficile. Aide-nous à aimer nos ennemis. Aide-nous, Seigneur de gloire, à prier pour ceux qui nous persécutent, ceux qui nous maltraitent. Aide-nous à faire du bien à ceux qui nous haïssent, Seigneur. Aide-nous à pardonner, Seigneur de gloire, ceux qui nous ont maltraités, ceux qui nous ont trompés, ceux qui nous ont trahis, Seigneur. Aide-nous à les pardonner véritablement, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ, nous venons prier, Seigneur de gloire, pour nos ennemis, ceux qui nous combattent sans cause, Seigneur, qu'ils comportent, Seigneur de gloire, des faux témoignages. Seigneur, nous les bénissons. Nous prions que tu te révèles à eux, que tu touches leur cœur, que tu les disposes, Seigneur de gloire, à recevoir l'Évangile, à se soumettre à ta volonté, Seigneur, afin de recevoir la vie. Seigneur, merci pour l'œuvre que tu as commencée dans nos vies, Seigneur, et que tu veux mener aussi à la perfection. Nous avons fait le choix de te suivre, Seigneur, et nous ne voulons pas reculer. Nous ne voulons pas reculer, Seigneur. Donne-nous la force d'avancer, dans le nom de Jésus. Que la gloire et l'honneur te soient rendus à toi seul, au siècle des siècles. Amen.